Chapitre 41. Le procès de Mordelia. Augénor frappa trois fois avec sa canne sur le parquet de l'estrade. Le diamant du pommeau brilla de trois brefs éclairs entre ses doigts. Toc, toc, toc. Le jugement de Mordelia et de son complice peut commencer, décréta le grand serf. Alix se demandait à quel moment elle pourrait reprendre la main. Certes, être arrivée en retard au conseil l'obligeait à une forme de discrétion, mais elle n'allait pas laisser Augénor mener les débats pendant toute la réunion. « Je crois que notre jugement se résume à un simple choix entre deux solutions, » continua le grand serf. « Soit nous enfermons Mordelia et son complice en prison, soit nous les autorisons à retrouver leur liberté. » Le conseiller regarda fixement Alix. Cette situation n'était pas sans rappeler celle vécue par Zizo il y a 2 ans, lorsqu'il s'était retrouvé prisonnier au château. Avant que quiconque d'autre ait pu réagir, Isalis bondit sur sa chaise. Le talc blanchissant, ses cheveux bouclés façon laine de mouton, se dispersa en un petit nuage. La ministre du temps passé semblait outrée. Qu'ils retrouvent leur liberté? Vous plaisantez? Et les dizaines de tableaux de la galerie des grands peintres balayés par la neige? Et la Vénus de Milo? La Dentelière? La nef des fous, perdue à jamais au fond du lac gelé? Que cette sorcière et son gros Bill s'estiment déjà heureux d'être logés et nourris au Trianon, et qu'on ne leur réserve pas un sort à la Louis XVI et Marie-Antoinette. Il y eut quelques sourires autour de la table à l'évocation de la décapitation du dernier roi et de la dernière reine ayant habité à Versailles. Prison 1, libération 0, pensa Alix. Et puisque le regard appuyé de son conseiller avait souligné le parallèle avec un autre prisonnier, elle estima que c'était le bon moment pour intervenir. « Pardon, Augénor. » Par défi, elle refusait la plupart du temps de l'appeler grand serf. « Mais on pourrait trouver une solution intermédiaire. Accorder à Mordelia et Bill une liberté surveillée, comme pour Zizo dans le château il y a 2 ans ?» Jeanne d'Arc se chargea de répondre à la place du conseiller. « Sans vouloir vous contredire, Majesté, le cas du jeune Zizomis était différent. Il était accusé de tricherie lors du tournoi de l'étoile ou d'espionnage au profit de la tribu du Tipi. » Rien qui mette en danger nos vies. Mordelia, elle, a été prise en flagrant délit de terrorisme. Nous connaissons la haine qu'elle éprouve envers le château. Nous ne devons pas non plus ignorer l'influence qu'elle exerce encore sur ceux que l'on a appelés les moineaux. En tant que ministre des punitions, c'est-à-dire chargé de notre sécurité, je considérerais comme hautement dangereux, pour ne pas dire irresponsable, de laisser Mordelia et son complice sortir de prison. 2-0 pour l'emprisonnement. Alix laissa son regard papillonner sur la reine. Les rangées de fauteuils rouges qui s'élevaient partout autour d'elle, où que ses yeux se posent, l'impressionnaient. Elle imagina l'hémicycle plein de bruit et de fureur, du temps où près de 1000 députés et sénateurs le remplissaient pour voter les plus importantes des lois du monde d'avant le passage du nuage. Il n'était plus que 9 enfants, perdus sur l'estrade de ce gigantesque amphithéâtre, bien trop jeunes pour rendre justice, pour avoir le courage de pardonner ou la force de condamner l'un des leurs à perpétuité. La voix grave d'Akan la tira de ses réflexions.
« J'ai beaucoup d'estime pour toi, tu le sais, Jean. »
commença le secrétaire général de la paix en s'adressant au chef des soldats plus qu'au reste du conseil.
« Et je comprends ta position. »
L'ado géant dépassait tous les autres ministres d'une tête, et ils étaient obligés de se tordre le cou pour regarder ses lèvres bouger.
« Mais nous sommes seuls pour reconstruire le nouveau monde. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de la paix, et donc, du pardon. Qu'allons-nous faire, sinon ?» Abandonner Mordelia toute sa vie en prison, jusqu'à ce qu'elle y meure, dans 50 ans, dans 60 ans, peut-être dans encore plus longtemps. Je connais Mordelia depuis que j'ai l'âge de me souvenir. C'est ce livre que personne d'autre qu'elle n'a jamais lu, ce livre que tu as brûlé, grand serf, qui a nourri en elle cette haine. Elle n'est pas née avec cette haine. Cette haine s'est insinuée en elle, comme un poison. Et je suis persuadé que si l'on ne parvient pas à extraire ce poison, il nous contaminera tous. Mordelia connaît des secrets sur nos origines. Enfermer ses secrets avec elle, c'est laisser se développer un venin plus mortel encore que le sang jaune qui contaminait les animaux. Nous devons laisser sortir Mordelia et Bill, et tous affronter notre passé.
2-1 pour la prison. Alix vit la main d'Eugénor se crisper dans les poils soyeux de Puggy.
Affronter le passé, évoquer frontalement qui était Marie-Lune, en finir avec les légendes et rétablir la vérité, c'était tout ce que voulait éviter l'enfant handicapé.
« Je suis d'accord avec Akane, » confirma Agnel.
Le ministre des Plantes, des Animaux et de la Terre montra du doigt le bouquet de primes verts posé dans le vase au milieu de la table.
« Je n'ai jamais beaucoup aimé Mordelia, mais nous formons tous le même troupeau, ou la même meute si vous préférez, la même harde, la même volée, le même bouquet. Chacun y a sa place, et nul ne peut être abandonné. »
Deux. Rien d'étonnant, analysa Alix. Jusqu'à présent, tous ceux du château se sont exprimés contre la libération de Mordelia et tous ceux du tipi pour.
Je rejoins Agnel, fit Solario pour faire mentir la règle. Libérons Mordelia et Bill. Écoutons-les. Et au besoin, aidons-les à s'exiler si toute réconciliation est impossible.
2-3. Le ministre des Voyages venait de donner l'avantage au camp favorable à la libération. Eugénor ne s'était toujours pas exprimé et continuait, imperturbable, à serrer son diamant dans une main et à caresser Puggy de l'autre. Désormais, Alix connaissait bien sa technique, laisser parler les autres, attendre qu'une majorité se dégage et voter à l'inverse pour ne vexer personne et surtout ne pas dévoiler ses véritables opinions.
« À toi, Eugénor, » ordonna Alix d'une voix claire.
« À toi de parler. »
Tous les regards se partagèrent entre la reine et son conseiller. Il était rare qu'on donne un ordre aux grands serfs, surtout depuis leur arrivée à Versailles. Eugénor se contenta de sourire, comme si une telle requête ne le gênait pas le moins du monde. Il prit le temps de réfléchir, paraissant peser avec précision le pour et le contre, jouant à merveille la sagesse d'un esprit supérieur et responsable qui ne prend aucune décision importante à la légère. Alix n'était pas dupe. Son conseiller mettait toujours moins d'une seconde à évaluer une situation et à peine une autre pour se décider. Même si une inconnue pesait dans la balance, les rumeurs continuaient de courir dans le nouveau château sur le nom de la mystérieuse sœur jumelle d'Eugénor. Et, selon Estive, qui s'amusait à recueillir les paris, Mordelia était de loin la favorite.
Qu'elle reste en prison, finit par lâcher Eugénor sans cesser de caresser ni son diamant ni son chien.
Il est trop tôt. Les plaies sont trop vives pour lui accorder notre pardon.
3-3.
Vanille l'enchaîna.
Alix savait déjà qu'elle serait la première du tipi à condamner Mordelia et Bill. Sa rivalité avec la sorcière du quatrième étage remontait à leurs plus jeunes années. La ministre du jour et de la nuit était aussi blonde que Mordelia était brune, aussi sociable et solaire que la sorcière du tipi était secrète et lunatique.
« Le grand cerf a évidemment raison qu'elle reste en prison. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais on a d'autres soucis que de débattre sans fin pour décider si cette folle et son garde du corps débile auront ou non le droit de se dégourdir les jambes. Vous voulez que je vous dresse la liste des questions indispensables qu'on a à traiter ?»
Vanille tenait devant elle un épais cahier rempli de tableaux, de dates, de chiffres. Un vent de panique presque unanime parcourut le conseil. Si elle se penchait sur ses notes et commençait à évoquer les problèmes d'intendance du château, du nombre de pots de fang à tanner pour nettoyer les glaces de la galerie jusqu'aux litres de cire d'abeille à stocker pour entretenir le parquet, le conseil ne se terminerait pas avant la nuit. 4-3 pour la prison, avait compté Alix. Elle coupa presque la parole à la ministre et tous lui en furent reconnaissants.
Au contraire, Van Hill, je considère que c'est notre principal souci.
Alix le pensait vraiment. Elle ressentait encore le souvenir douloureux de sa dispute avec Zizo pendant des semaines, simplement parce que Chrysante lui avait lu le livre de Pierre Seul. Ce livre avait nourri la haine de Mordélia envers ceux du château. Ce livre qui racontait la nuit de la pyramide. Ce livre qui accusait Marie-Lune d'avoir abandonné à l'hiver des centaines d'enfants morts de froid enterrés au cimetière de Picpus.
Je suis de l'avis d'Akan, poursuivit Alix. La haine de Mordélia est un abcès qu'il faut crever. Je pense que nos deux tribus ne seront vraiment unies que lorsque nous connaîtrons le secret de nos origines et que tous ceux qui en connaissent des bribes accepteront de parler.
4-4. Seul Liu, le ministre des Inventions, n'avait pas parlé. Il était assis entre Génor et Akan. À côté du géant, il ressemblait à un nain assis sur une chaise trop grande. Il plissa les yeux derrière ses lunettes rondes posées au bout de son nez, signe d'une profonde méditation, mais tous les membres du conseil étaient persuadés qu'il voterait contre la libération de Mordélia, ne serait-ce que parce que l'attentat de Mordélia et Bill contre le château et les turbines des moulins sur le fleuve avait ruiné plus d'un an de recherche des savants et détruit à jamais la plupart des expériences sur lesquelles ils travaillaient. Une perte irrécupérable. Tous les membres étaient persuadés qu'ils seraient incapables de pardonner. Tous, sauf Alix. Elle savait que Liu, depuis plusieurs jours, dès qu'il mettait les pieds dans l'aile des savants, était pris en étau entre Valère, qui le suivait partout pour lui asséner des cours d'histoire sur les grandes guerres, et Lunella, aussi souriante que tactile, qui l'invitait à s'asseoir en tête à tête et lui parlait de ses rêves de paix, de progrès et de voyage qu'elle puisait directement dans la tête de son frère.
Je crois,
bafouilla Liu, il n'avait jamais été un grand orateur,
que toute l'histoire du monde d'avant, nous apprend que, après une guerre, il faut œuvrer à la paix. Plus la guerre a été impitoyable, plus les pertes ont été nombreuses, plus les motifs de se détester sont justifiés, plus la réconciliation qui suivra devra être solide. L'histoire nous apprend aussi que après une guerre, c'est toujours au vainqueur, au plus fort, à celui qui n'a presque rien perdu, de faire le premier pas. L'humiliation et la punition ne nourrissent qu'un seul sentiment, le goût de la revanche. C'est pourquoi je vote pour le pardon.
4-5. Le conseil avait voté. Mordélia et Bill seraient donc libérés.